Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, logement écolo, le gouvernement en fait-il assez ? Il n'y a pas que les taxes sur le kérosène ou celles sur les carburants automobiles qui permettent de lutter contre les émissions de CO2 et partant contre le réchauffement climatique. Il y a aussi les aides à la rénovation de nos logements, appartements ou maisons, de nos immeubles de bureaux, des bâtiments privés ou publics souvent mal isolés et qui représentent, c'est important, un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Ces aides, cela fait plusieurs années qu'elles existent, plusieurs années qu'elles fonctionnent, tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, d'où la volonté du gouvernement de changer cette politique. Pour cela, il vient de présenter un texte, le projet de loi énergie-climat, adopté à l'Assemblée, bientôt discuté au Sénat, ce sera la semaine prochaine. On y trouve de nouvelles mesures intégrées à un dispositif dit progressif, d'abord incitatif, ensuite coercitif. Des mesures essentiellement destinées aux logements les plus énergivores, ce souvent appelés les passoires thermiques. Il y en a près de 7,5 millions dans le pays. Des mesures d'ores et déjà critiquées, pas assez ambitieuses pour certains, pas réalistes pour d'autres. Une nouvelle politique très discutée donc. Bref, dans ce dossier, celui des logements verts, le gouvernement en fait-il assez ? Pour répondre à cette question, trois invités. Célia Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez à la Fondation Nicolas Hulot, vous êtes en charge du dossier climat-énergie. Vous faites partie, par ailleurs, de ceux qui ont lancé une action en justice contre l'État, connue sous le nom de l'affaire du siècle. Henri Buzicazo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur et le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, directeur également, directeur général d'une école de commerce, l'ISC Paris. Jean-Claude Drian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École d'urbanisme de Paris. Et vous avez écrit « Les politiques du logement en France », livre publié par la Documentation française.
On utilise ensuite les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, pour se chauffer. Sur ce sujet, nos artisans et nos entreprises savent construire des bâtiments basse consommation ou même à énergie positive. Ils doivent continuer à le faire et notre stratégie est précisément de les y encourager. Mais le parc de bâtiments ne se renouvelle qu'au rythme de 1% par an. Nous devons donc aussi et surtout travailler à faire évoluer les modes de chauffage, à mieux isoler les logements, les usines, les immeubles, les commerces existants. Des mesures et des moyens sont sur la table. 9 milliards d'euros dans le cadre du plan d'investissement. Mais les résultats sont aujourd'hui trop timides. Les rénovations financées sont en augmentation. Mais nous ne sommes pas au rendez-vous sur ce sujet. Nous devons accélérer.
Nous devons faire plus, nous devons accélérer. Voilà ce que disait Emmanuel Macron en novembre dernier à l'Élysée. Il présentait alors sa stratégie et sa méthode pour la transition écologique. En un mot, pour commencer cette émission, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que déclarait alors le chef de l'État, Célia Gauthier ?
Alors, sur le constat, oui. C'est un constat qui a été relevé également par le Haut Conseil sur le climat qui a sorti un rapport la semaine dernière sur l'action climatique de la France, également par l'affaire du siècle, puisque nous soulevons le fait que sur la question des logements, la rénovation énergétique des logements, les actions ne sont pas suffisantes. Et sur la réponse qui a été apportée par le gouvernement ces derniers jours à ce constat, là, on est en désaccord complet, puisque le gouvernement imagine qu'il peut faire la transition écologique à coup d'incitation uniquement.
Et on va y venir.
Pas.
On va y passer la majeure partie de cette émission. Henri Buzicazo, pardon.
Un retard marqué. On a commencé à s'engager sur cette voie dans les années 2007, 2008, 2009, les lois Grenelle 1, Grenelle 2. Une figure qui a été attachée à cette volonté, c'est celle de Jean-Louis Borloo. Et puis ensuite, bon, tout le monde est entré.
Mais vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il dit « nous devons accélérer » ?
On doit accélérer parce qu'on a pris probablement, allez, ça fait 10 ans bien pesé qu'on crée des outils, qu'on a un discours là-dessus, et on a pris probablement 5 ou 6 ans de retard. Sur le parc existant, c'est le gros du sujet, hein, le président de la République le rappelle, c'est très clair. Sur la construction neuve, non. Il y a des normes aujourd'hui exigeantes, on peut vouloir qu'elles soient plus exigeantes, on en parlera sans doute.
Oui, on va y
venir. Là-dessus, on est tiré d'affaire. C'est sur le parc existant qu'on a pris le retard, et en copropriété privée essentiellement.
Jean-Claude Drian.
Moi aussi, d'accord sur le constat initial, c'est-à-dire que la question qui se pose vraiment est celle du parc existant, et que effectivement, on a pris énormément de retard en la matière. Mais c'est un enjeu monstrueux, c'est 36 millions de logements, le parc existant. Au total, si on compte aussi les résidences secondaires, peut-être qu'on parlera aussi de ces logements-là qui sont pas concernés de la même façon, mais qui peuvent aussi un jour être mis en vente.
On a parlé de 400 milliards de travaux à l'époque du lancement.
400 milliards
d'euros. Bâtiment durable, j'évoquais Jean-Louis Borloo, on évoquait 400 milliards de travaux. Un potentiel pour les entreprises, hein, elles ont été évoquées par le président, et puis une exigence pour les propriétaires, les copropriétaires ou les bailleurs sociaux aussi.
Le président a déclaré aussi ces derniers mois que les politiques des dernières années avaient été un échec, il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'il a raison, Jean-Claude Drian ?
Il a raison, oui, dans la mesure où effectivement on est allé beaucoup plus lentement que ce qui a toujours été affiché comme objectif.
Donc c'est un classique, hein, effectivement, fixe des objectifs qu'on ne respecte et qu'on n'atteint jamais.
Et là on en est vraiment très loin, pour le coup. Mais c'est aussi le reflet d'un certain nombre de difficultés et du coût global que ça représente pour la société et pour les propriétaires eux-mêmes.
Célia Gauthier.
Plus précisément, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment est 3 fois inférieur à ce qu'il faudrait faire et ce qui a été promis dans la loi. Et la raison principale, à notre avis, pour expliquer cela, c'est d'une part qu'il n'y avait pas suffisamment d'obligations et d'autre part un déficit profond d'investissement public. Même s'il y a des investissements qui sont menés, ils ne sont pas suffisants. À équation budgétaire égal, on ne peut pas faire la transition écologique dans le bâtiment.
Deux choses. Le parc public, c'est les commissariats, c'est les écoles, c'est les lycées, a un retard encore plus marqué que le parc privé. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que l'État est mauvais élève. Bon, il n'est pas exemplaire.
Alors, il ne respecte pas les objectifs qu'il sait lui-même ou qu'il fixe lui-même aux autres.
Il ne respecte pas les objectifs qu'il fixe aux autres. Et ça, déjà, ça témoigne d'un vrai problème. Et c'est l'État, c'est pas un ministre, un président. Voilà, il y a eu cette inertie. Et j'ajouterai aussi, peut-être que sur les obligations, on ne tombera pas d'accord sur la sévérité.
On va y venir dans la deuxième partie de l'émission.
Mais que les arguments utilisés n'ont pas été les bons. J'ai le souvenir, moi j'avais signé au nom d'une grande organisation professionnelle immobilière avec Jean-Louis Borloo, comme toutes les autres d'ailleurs, les accords en 2007. Et l'argument, c'était la baisse de la facture énergétique. On disait aux ménages, vous allez faire des économies.
C'était des promesses.
Oui, c'était des promesses. On ne savait pas déjà quantifier ces économies. Et cet argument ne suffit pas. Il faut très clairement parler aujourd'hui de développement durable, c'est-à-dire des générations futures et de la protection de l'environnement et de la planète. Il faut le dire, et c'est pas de la philo. Et puis il faut parler aussi de bien-être, parce qu'un logement isolé, mieux isolé, c'est un confort de vie.
L'argument
et valorisation du patrimoine.
Voilà, l'argument financier ne suffit plus aujourd'hui.
Il suffit plus. Il est un parmi d'autres, mais il faut aujourd'hui une batterie d'arguments pour éveiller les consciences et pour entraîner.
Jean-Claude Drian.
Juste un petit argument positif dans ce constat global négatif que je crois nous partageons tous. Il y a un secteur qui fait des efforts depuis maintenant une bonne dizaine d'années de façon importante, qui est le secteur du logement locatif social, les HLM, qui sont engagés dans des politiques de rénovation énergétique extrêmement vigoureuses.
Exemplaires.
Et qui, évidemment, ne sont toujours pas à la hauteur des ambitions qu'on peut se donner, mais qui avancent vraiment. Là, on sent quelque chose qui avance.
Alors, les objectifs affichés par les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années n'ont pas forcément été atteints. Cela dit, il y a bien eu des aides, et des aides qui ont été données à plusieurs ménages, à des milliers de ménages. À qui ont-elles profité, ces aides ? Est-ce que ce sont les plus modestes qui en ont profité ? Est-ce que ce sont les plus aisés ? Henri Buzicazo. Bah,
écoutez, sur le CITE par exemple.
Le crédit impôt pour la transition énergétique.
Très célèbre, on en aura beaucoup parlé. Avec là-dessus un manque de clarté politique depuis 2 ans notoire, bon, faut quand même le dire. Il faut des outils simples pour que les ménages comprennent. Il faut qu'on les stabilise une bonne fois pour toutes. On en est loin. Mais il a été estimé que 80% des ménages bénéficiaires du CITE faisaient partie des 20% les plus riches. Donc l'objectif de ce point de vue-là, il est raté. Et quand j'entends qu'on s'achemine vers des aides dépendant des revenus, je trouve ça normal. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'aide publique vienne compenser le manque de solvabilité et ça ne suffit pas de dire on va balancer une aide comme ça dans la nature, c'est pas possible.
Célia Gauthier.
Oui, tout à fait d'accord avec ça. En ce qui concerne les ménages modestes, il y a des aides qui existent, parfois conséquentes, 80% des travaux peuvent être pris en charge. en avance, mais le problème, c'est qu'en fait, les ménages n'y ont pas recours. Mmh. Quand vous êtes en galère, que votre question prioritaire, c'est de survivre, est-ce que vous pensez à aller fouiller dans la forêt d'aide pour trouver celle qui vous conviendra pour rénover votre logement? Non. Donc, il y a un enjeu pour les ménages modestes d'accessibilité et surtout de les trouver, de les cibler, ces ménages, de les accompagner au plus proche du territoire. Donc, vraiment, un accompagnement de proximité. Et dans la loi de transition énergétique de 2015, il y avait la promesse d'instaurer un service public local de la rénovation énergétique. Mmh. Ce service public n'a jamais été instauré. Et donc, par conséquent, les ménages qui, effectivement, ne savent pas naviguer dans les aides d'État, se sont retrouvés en rade.
Voilà, une offre pléthorique, mais pas vraiment de service adéquat, Widouane, pour qu'on puisse savoir exactement quelles étaient ou quelles sont les aides dont on peut bénéficier.
Pas de guichet unique d'information. Mmh. D'ailleurs, j'observe que Julien de Normandie vient de lancer, il a annoncé
le ministre en charge du logement.
En charge du logement de la ville, une plateforme d'information qu'il crée avec l'ANA, l'Agence pour l'amélioration de l'habitat. Mmh. Je m'étonne qu'il n'y ait pas, par exemple, les espaces info-énergie qui soient associés à cette initiative, parce que l'une des informations les plus recherchées aujourd'hui par les ménages, et pas que les plus modestes, les ménages tout court, c'est qu'est-ce que je peux faire, en quoi je vais être aidé ou pas aidé, et aussi comment je peux mesurer la performance énergétique. Mmh. On commence à dire aussi que le CITE dépendrait, l'aide dépendrait de la performance qu'on va pouvoir obtenir de travaux donnés. On ne le sait pas aujourd'hui.
Alors, ça me donne l'occasion de parler du diagnostic, parce que avant de pouvoir rénover un logement, il faut savoir si on a besoin de le faire et dans quelle proportion on a besoin de le faire. Aujourd'hui, Henri Buzy-Cazaux, est-ce que le diagnostic, dans quel cas plutôt, le diagnostic est obligatoire? Le DPE, le diagnostic de performance énergétique.
Alors, le DPE, c'est une mesure de la performance ou de la contre-performance énergétique. Et les fameuses passoires énergétiques, hein, ce sont ces logements qui sont très mal classés dans cette échelle, hein, colorée qu'on voit dans les vitrines.
Sept niveaux de A à G.
Et ça, c'est de la mesure. Le diagnostic, c'est plus que ça. Quand vous allez chez le médecin, s'il constate que vous avez de la température, c'est une chose. Il va se demander pourquoi. Et vous allez voir essentiellement dans cet objectif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Il existe un diagnostic global qui a été rendu obligatoire en copropriété sans sanction. Et donc les copropriétés, par exemple, qui sont des mauvais élèves, pour beaucoup ne votent pas ce diagnostic, ne le font pas. Et on mesure qu'après, elles vont pas non plus exécuter les travaux.
Diagnostic obligatoire, à quelle occasion? C'est un diagnostic annuel, indépendamment de la location ou de la vente d'un bien?
Voilà. Globalement, les copropriétés les plus anciennes, les plus modernes en sont exonérées. Il a été écrit dans la loi Allure qu'elles devaient procéder à ce diagnostic. Mais beaucoup d'autres logements n'ont pas cette obligation. Quand vous allez louer un logement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, dans le projet de loi climat qui est à l'examen bientôt du Sénat, il est écrit qu'à l'échéance 2022, il y aurait l'obligation, parce qu'il y a plusieurs années, c'est un peu compliqué.
Oui.
je crois que c'est 2022, il y aurait l'obligation, quand on vend un logement, quand on le loue, d'associer un diagnostic et de dire à celui qui va l'acheter ou le louer ce que va lui coûter la consommation énergétique. Je considère que c'est un progrès.
Jean-Claude Rion.
Oui, sur le DPE, il est obligatoire dès qu'il y a une transaction, dès qu'il y a une mobilité. Quand il y a une vente, aujourd'hui, il doit y avoir un DPE. Et quand il y a une mise en location, il doit aussi y avoir un DPE.
Mais si moi j'occupe un logement depuis 20 ans...
Il peut ne rien y avoir.
Rien
absolument.
N'oblige.
Il n'y a actuellement aucune obligation. Henri Buzy-Cazaux disait, il n'y a pas de sanction aujourd'hui. Il y a un moment où il va y avoir une sanction, c'est la sanction du marché. Mmh. C'est-à-dire qu'un logement mal classé va avoir une valeur marchande inférieure et ça va commencer à se voir et ça va commencer aussi probablement à générer des inégalités.
Mmh. Même sur les marchés tendus. Même là où il y a une vraie demande.
Sur tous les marchés.
On a beaucoup dit, mais les gens vont acheter de toute façon, que le logement soit en F ou en G. Quand on veut vivre à Paris, quand on vivra à Rennes ou à Bordeaux, on s'en moque. Ça n'est pas vrai. Mmh. Ça n'est pas vrai. Il y a quand même un progrès des consciences sur ces sujets.
Justement, vous parlez de conscience, Henri Buzy-Cazaux. Dernière question pour fixer le contexte dans lequel intervient ce projet de loi. Quand a-t-on pris conscience de l'importance de rénover les bâtiments, les logements, les bureaux, de bien les isoler pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre?
Déjà, vous évoquez les bureaux. Le marché des bureaux, il est beaucoup plus exigeant. Aucune entreprise ne va louer ou acheter des bureaux aujourd'hui s'ils ne répondent pas à des normes exigeantes en matière de performance énergétique, mais aussi bien sûr d'équipement numérique. Pour le logement, cette prise de conscience, voilà, depuis 10 ans on en parle, la communauté professionnelle a pris du retard. Moi, je voudrais qu'on parle beaucoup des agents immobiliers, des syndics, des gestionnaires locatifs. Il y a eu du travail fait par les organisations professionnelles. professionnel, mais ce corps professionnel qui est essentiel, il a eu une conscience très insuffisante. Et quand vous dites, quand a-t-on réalisé qu'il fallait les rénover, ben, on est en train de le réaliser, voilà, je vous dirais ça.
Dans le monde du logement social, dès les années 70, la chasse au gaspillage consécutive au premier choc pétrolier a été, dans le monde du logement social, un des premiers facteurs de lancement des politiques de réhabilitation. Mmh. Alors avec des normes, des façons de faire extrêmement différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, dans une logique qui n'était pas une logique émission de gaz à effet de serre, mais plutôt une logique maîtrise des charges. Mais bon, quand les deux sont solidaires, tant mieux.
Célia Gauthier.
Oui, et on me disait tout à l'heure, ça fait 10 ans en fait que les lois existent pour fixer des objectifs sur la rénovation énergétique.
10 ans seulement.
Dans un but de lutter contre le changement climatique. Donc c'est la loi Grenelle. Déjà la loi Grenelle fixait 400 000 logements rénovés par an. Aujourd'hui on n'arrive même pas à 300 000 et ce ne sont pas toutes des rénovations performantes, c'est-à-dire qui permettent des gains conséquents d'énergie. Donc on voit bien que finalement on a adopte de nouvelles lois qui actent du retard pris les années précédentes, on fixe de nouveaux objectifs, mais de fil en aiguille, le retard s'accumule, et surtout les émissions de gaz à effet de serre et la crise climatique.
Avant de parler du projet de loi un peu en détail, en quelques mots rapidement, et pour bien comprendre vos positions, quel devrait être l'objectif d'un tel texte, Célia Gauthier ?
Alors, pour nous, à la Fondation Nicolas Hulot, nous poussions avec un collectif qui s'appelle Rénovons, qui regroupe des ONG environnementales, des ONG de lutte contre la précarité énergétique, on pourra en parler, un objectif d'interdiction, en fait, de la mise en location et de la vente des passoires énergétiques. C'est-à-dire que pour fixer progressivement une obligation de travaux, à partir de 2020, nous souhaitions que aucun nouveau locataire, en cas de changement de locataire, on ne pouvait, si le logement n'était pas rénové, on ne pouvait pas le mettre sur le marché. Et en cas de changement de propriétaire en 2022, on ne pouvait pas le mettre sur le marché non plus.
Avant de passer la parole à Henri Buzicazo, un point parce que on en parlait avant d'entrer dans le studio. Il faut bien comprendre que les logements, le bâtiment, est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France, si ce n'est le premier, c'est ce que vous me disiez.
Oui, alors en fait, pour nous, c'est un sujet très important parce qu'il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est celui de la lutte contre le changement climatique parce que le secteur du bâtiment est le premier consommateur d'énergie. C'est 40% de la consommation d'énergie et c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Mais il y a aussi un enjeu social considérable. S'il y a 7,5 millions de passoires énergétiques dans ce pays, il y a des ménages qui vivent dedans et qui sont obligés de faire des choix entre se chauffer ou vivre tout simplement. Et donc ça entraîne des conséquences sociales graves. On a chiffré pour la sécurité sociale que ce que ça représentait, le fait que les personnes ne se chauffent pas et tombent malades notamment, où il y a des arrêts de travail, ça représente 750 millions d'euros par an de coûts pour la sécurité sociale. Donc vous voyez, il y a un vrai enjeu social à rénover ces passoires énergétiques.
Interdiction, et puis donc pour des raisons économiques, écologiques et sociales pour Célia Gauthier, quel devrait être l'objectif, je vous repose la question, Henri Buzicazo, quel devrait être l'objectif d'un tel texte, indépendamment du texte qui est à l'étude aujourd'hui, enfin, dans quelques jours au Sénat?
Déjà, je parlerai d'une échéance. Il me semble qu'on doit s'assigner que dans les 5 ans, voilà, je dis ça de manière voilà, fondée, en ayant un peu l'expérience aussi de la manière dont on peut gérer le parc, le faire progresser. Il y a la question de la solvabilité des ménages, puisque c'est pas l'État qui va aider à 100% les ménages, quels qu'ils soient. Le réalisme pour moi, c'est que dans les 5 ans, on ait atteint les objectifs. Et pas seulement l'éradication des passoires énergétiques. Alors ces 5 ans, mais quand je vois le projet de loi, on en est un peu loin. On parle de 2028 pour descendre en dessous, si je puis dire, des passoires énergétiques. Donc les lettres F et G, les très mauvais élèves, on les traiterait assez rapidement, 21-22. Et puis les autres, on renverrait à 2028. Je pense qu'il faut rapprocher l'échéance. Et c'est vrai que pour le reste, sur la méthode, j'essaie d'être réaliste. On a la moitié du parc locatif, par exemple, privé, qui vient compléter le parc HLM. Les ménages se logent dans ces deux parcs. Et le plus important, c'est le parc privé, de l'ordre de 7,5 millions de logements locatifs. Ben, la moitié sont des mauvais élèves et sont des passoires thermiques. Et donc, je dis, attention, si on interdit de louer la moitié du parc locatif privé, comment fait-on? C'est ce qui me conduit, même si je comprends l'exigence que peuvent avoir les ONG et puis bien d'autres, à tempérer un peu. C'est difficile, il faut composer. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, il y a une méthode qu'on a choisie qui a été une méthode douce, qui n'a pas suffisamment marché. Le plan bâtiment qui a été créé par Borloo, c'était mettre ensemble tous les acteurs professionnels, les faire avancer par adhésion. L'adhésion n'a pas suffi, je le dis comme je le pense. C'était aussi le droit souple. Le droit souple, c'est pas de sanctions. Je pense que oui, là, on est arrivé à une période où le droit souple ne suffit pas. Il faut des sanctions, il faut des échéances dures. Voilà. Et puis un accompagnement financier, parce que des ménages autrement ne feront jamais.
On va parler de la méthode dans quelques instants. Jean-Claude Drian, vous, devrait être, selon vous,
L'objectif principal, c'est d'accélérer le mouvement.
À quelle échéance, selon vous,
le mouvement. L'échéance 5 ans me semble une échéance
réaliste,
oui. Qui suppose des moyens importants, qui supposera forcément des moyens importants.
Et une volonté.
Et une volonté, mais ce qui passe quand même, et c'est quand même toute l'histoire de l'amélioration du parc de logement, pas seulement thermique, c'est l'arbitrage entre coercition et incitation. Probablement qu'il faut mettre une dose de coercition. Mais derrière la dose de coercition, il faut apporter à ceux qui n'en ont pas les moyens, les moyens de le faire.
Alors le projet de loi, venons-y, deux grands points à retenir. Dispositif progressif, vous l'avez évoqué, incitatif dans un premier temps, coercitif dans un second, sans qu'on connaisse d'ailleurs très précisément encore la nature de toutes les sanctions prévues, et un objectif, ne plus pouvoir louer ou vendre des logements très consommateurs d'énergie, donc ces fameuses passoires énergétiques, sans pénalité financière. Ça, l'objectif, vous le disiez, Henri Buzicazeau, est fixé d'abord à 2028, voire 2033 pour les copropriétés qui sont les plus en difficulté. La méthode maintenant, donc ce dispositif progressif, incitatif pour aider à rénover avant de passer au coercitif, des sanctions si la rénovation n'est pas faite, impossible de louer un logement encore classé F ou G à partir de 2028. En cas de vente d'un tel logement, il y aura un séquestre, 5% du prix de vente pour aider le nouveau propriétaire à effectuer les travaux. En tout cas, c'est l'esprit de cette mesure. D'autres sanctions doivent arriver, je le disais, elles n'ont pas encore été définies. Réflexion renvoyée à 2023. Est-ce que tout cela, Célia Gauthier, est bien raisonnable?
2023, vous aurez remarqué que c'est après la fin de ce quinquennat.
C'est embêtant. En un sens, c'est embêtant déjà.
Dire qu'on va fixer des sanctions plus tard, ça revient à ne pas en fixer, ou en tout cas à ce qu'il ne se passe pas grand-chose entre maintenant et 2023. Pour nous, il fallait qu'il se passe impérativement des choses entre maintenant et 2023, sur l'échéance 5 ans, 2025, pour l'éradication des passoires et le fait de faire progresser l'ensemble du secteur du bâtiment, je pense qu'on était globalement d'accord.
Sur la méthode maintenant, sur cette progression, cet accompagnement des propriétaires ou des bailleurs.
Mais alors, justement, ça non plus, on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants de ces aides. Ils nous disent qu'ils vont améliorer, simplifier les aides, mais ça c'est reporté au projet de loi de finances. Donc dans la loi il n'y a rien
Sur le côté incitatif en fait on
parle bien sûr, alors il faut absolument de l'incitation et de l'accompagnement
avant la coercition,
il faut la carotte, non pour nous il faut les deux
en même temps, simultanément.
L'incitation on l'a déjà eu effectivement, ça a été dit, maintenant il faut aussi le bâton, la carotte et le bâton c'est malheureusement ce qui devient nécessaire, donc améliorer les aides en parallèle d'une forme d'obligation, c'est très important. L'amélioration des aides elle est repoussée au projet de loi de finances. Et le risque que l'on craint à la Fondation Nicolas Hulot, c'est que, au passage d'une modification des aides, eh bien, globalement, les volumes soient abaissés. On est quand même dans un gouvernement qui est obsédé par l'économie de la dépense.
Et que le budget du logement soit encore une fois.
Et qu'on se dise, on se concentre sur les logements les plus modestes, et dans la masse, vous voyez, des logements qui seraient rénovés, globalement, les volumes baissent.
Henri Buzicazeau.
Oui, alors sur l'approche budgétaire de ce gouvernement, ou de ces gouvernements, il y a déjà eu quelques remaniements, j'y souscris, et puis plus globalement par rapport au logement. C'est vrai qu'on a un regard qui est très comptable, le logement coûte encore 41 milliards d'euros, déjà on en a rogné presque un et demi depuis deux ans, mais il rapporte 74 milliards, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces travaux, ils font tourner la machine économique. Le président lui-même parlait des entreprises. Ces entreprises, aujourd'hui, c'est le premier employeur privé de France. Hein, et je parle d'entreprises dans le tissu local. Je ne parle pas de grandes entreprises du bâtiment. Bien sûr, elles y contribuent aussi. Donc cet emploi, cette filière considérable, c'est de 2,5 millions d'emplois. Hein, il faut aussi se dire qu'on va s'y retrouver. Il faut se dire également, tout à l'heure le président disait, dans l'extrait que vous avez retenu, elles sont tout à fait en mesure, ces entreprises, de faire ces travaux. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu un travail colossal de formation. La Fédération du bâtiment, la CAPEP, c'est les deux grands syndicats, n'ont pas ménagé leur peine. En attendant, on a du retard. Mmh. Et en termes de savoir-faire, quand vous recrutez aujourd'hui des ouvriers qui sont en mesure de respecter les process, il y a des process exigeants derrière tout ça, manier les matériaux qui vont permettre d'arriver à ces performances énergétiques, eh bien vous souffrez beaucoup.
Il y a encore du travail à faire de ce côté-là.
Oui, l'appareil, absolument, l'appareil industriel n'est pas encore au point. Mmh. Et ça, il faut le dire, on n'en parle jamais, on fait comme si on ne voulait pas faire.
C'est un point fondamental, bien sûr. Jean-Claude Rian.
D'autant que dans le stock de logements à rénover ou améliorer en la matière, il y a une majorité aujourd'hui de maisons individuelles pour lesquelles les intervenants ne sont pas les grandes entreprises de bâtiments ultra technologiques, mais les artisans locaux, chez lesquels il y a aujourd'hui encore un enjeu de formation et de maîtrise de cette rénovation énergétique qui est un enjeu énorme. Il y a un vrai enjeu technique.
C'est le label qui existe.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
Voilà, il existe un label RGE qui a fait la preuve aujourd'hui son efficacité. Alors, il est en train d'être revu.
RGE, hein,
c'est le label. Oui, c'est-à-dire qu'en clair, on a présupposé que des entreprises dont les ouvriers avaient été spécialement formés pouvaient donner lieu, il y a une éco-conditionnalité à des aides. Hein, si les travaux ont été faits par ces entreprises-là, alors vous avez des aides ou des aides majorées. Et on a dormi sur nos deux oreilles. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. On a vu des entreprises qui, pour certaines, n'étaient pas assez compétentes, qui majoraient les prix. Donc aujourd'hui, il y a un manque de lisibilité. Là encore, les syndicats n'ont pas démérité, mais il y a encore beaucoup de nettoyage à faire.
Vers qui il faut se tourner pour trouver les bonnes entreprises ou les entreprises qui sont réellement aptes à réaliser ces travaux?
Vous posez une très bonne question.
De rénovation.
On a bien du mal.
C'est les Gauthier.
La première chose à faire si vous êtes un ménage et que vous êtes intéressé à rénover énergétiquement votre maison, c'est de vous tourner vers votre espace info-énergie. Donc, c'est une structure locale qui existe dans la plupart des territoires, mais pas dans tous.
Très compétente.
Et qui, malheureusement, sont submergées de demandes, mais sont chargées de vous orienter vers les artisans locaux, les aides auxquelles vous avez droit, etc. Et alors, la partie particularité de ces espaces-là, c'est qu'ils sont spécialement formés sur ces questions-là, que ce sont des structures plutôt de type indépendante et associative ou dépendantes de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, et qu'ils n'ont pas d'enjeux financiers à ce que vous fonctionnez avec tel ou tel artisan. Mais autant ils sont très bien équipés dans les grandes villes et les territoires riches, autant dans les territoires ruraux et dans certains territoires, même aujourd'hui, où les questions économiques sont difficiles, eh bien, ils ont tendance à être, à disparaître ou à être mal en point. Et il y a eu des pots de bilan récemment dans certains territoires. Donc, vous voyez, on a un gouvernement qui, d'un côté, dit on va accompagner les ménages dans la rénovation des logements, et de l'autre, le principal outil dont ils bénéficient dans les territoires pour ce faire est abandonné ou en tout cas insuffisamment financé.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
Logement vert, le gouvernement en fait-il assez? C'est la question du grain à moudre d'été posée ce soir pour y répondre. Célia Gauthier, responsable climat-énergie au sein de la Fondation Nicolas Hulot, Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, Jean-Claude Drian, professeur à l'École d'Urbanisme de Paris. Vous avez parlé tous les trois des moyens financiers qu'il faut mobiliser pour rénover tous ces bâtiments, ces logements, ces bureaux. L'État va porter la main à la poche en quelque sorte, va aider certains ménages. Les aides sont nombreuses d'ailleurs aujourd'hui, vous le disiez Henri Buzicazo tout à l'heure, c'est un pléthorique, c'est un millefeuille parfois illisible. Le projet énergie-climat, le projet de loi, la prévoit de les simplifier. Dans quelle mesure et est-ce que c'est une bonne idée?
Oh, c'est une bonne idée parce que on parle là d'aides qui s'adressent à des ménages parfois modestes et que ils ne sont pas spécialistes. Il faut donc une boîte à outils qui soit réduite et qui soit puissante. Un exemple, les certificats d'économie d'énergie. Qui sait ce que c'est? Vous faites un sondage dans la rue, vous allez comprendre. Personne ne sait ce que c'est. Ce sont des aides puissantes. C'est un mécanisme intelligent qui a été créé. On s'est dit que ceux qui contribuent à polluer, parce que c'est leur fonction, hein, les grands émetteurs d'énergie, voilà, Total ou d'autres, étaient des obligés qui devaient participer à l'effort de rénovation et que ça peut venir faire baisser directement le prix d'une chaudière que vous achetez ou que vous avez des aides a posteriori et qui réduisent votre effort. C'est un mécanisme intelligent. Il est relativement complexe. Il a été très mal expliqué au public. On est à la quatrième génération de certificats parce que la puissance a varié selon ce que l'État était prêt à faire. Bref, voilà l'exemple d'une aide intelligente que personne ne connaît. Le CITE, on l'a dit tout à l'heure, il a bougé 100 fois depuis 2 ans. Je serais bien en peine de vous dire où on en est aujourd'hui. Ouais, pourtant, je suis assez attentif à tout ça. Bon, bien sûr, il y a ça. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Dans l'univers de la copropriété privée, par exemple, c'est 9 millions de logements. Dans nos villes, ou grandes villes, villes moyennes, et aussi dans la ruralité, ces copropriétés, elles doivent avoir la volonté. Alors c'est une volonté collective, c'est compliqué de faire marcher ensemble 20 copropriétaires, ou 100, ou 300. Mais les moyens existent, les banques aussi peuvent intervenir. Je m'étonne que les banques soient très peu mobilisées. Hein, il existe un outil qui est le prêt collectif, et bien il n'y a plus aucune banque qui le fasse aujourd'hui. C'est un vrai problème, mais ne pas tout attendre de l'argent public. Voilà, il faut une volonté collective.
Célia Gauthier.
Oui, il y a un dispositif qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro, qui peut être accordé par les banques.
Pour les propriétaires bailleurs, hein.
Pour l'ensemble des propriétaires, que vous soyez bailleur ou occupant. Et la petite anecdote, c'est que, par exemple, j'ai un collègue qui a rénové sa maison récemment. Il est allé à la banque, sa branche locale, et ça faisait 5 ans. Que personne n'avait accordé de prêt dans cette banque. Et donc, les gens ne savaient tout simplement pas faire dans la banque. Donc là, il y a une vraie responsabilité des banques qui ne le proposent pas, alors que c'est un dispositif qui a été créé par l'État, puisque l'État, évidemment, bonifie ses prêts qui sont sans taux d'intérêt.
Petite parenthèse, puisqu'on parle du parc privé et de la rénovation du parc privé, si un propriétaire bailleur rénove son appartement, est-ce qu'il peut, encore une fois, en le mettant aux normes, en tout cas en le sortant de ses lettres F et G, et en faisant qu'il n'est plus une passoire thermique, quelles conséquences pour les locataires? Est-ce qu'il peut augmenter d'un coup le loyer après les travaux?
Oui, alors c'est tellement vrai que le projet de loi propose que s'il ne le fait pas, et ça je crois que c'était à l'échéance 2022, s'il ne le fait pas, il ne pourra pas augmenter son loyer. A contrario, quelqu'un qui entretient son logement, qui le rénove au plan énergétique, pourra prétendre à un loyer supérieur. Alors, sauf les mécanismes d'encadrement de loyer, oublions tout ça, mais globalement, quand la qualité du logement est majorée, bien sûr, vous pouvez avoir des exigences. Et les logements neufs, par exemple, qui répondent à des normes exigeantes, se louent plus cher que des logements existants à localisation égale, bien sûr.
Est-ce que les aides aujourd'hui, Jean-Claude Drian, sont suffisantes, les aides d'État, même si on a bien compris, tout ne repose pas sur la politique
effectivement,
publique.
Effectivement, tout ne peut pas reposer sur de l'aide publique, mais non, elles sont clairement aujourd'hui insuffisantes, notamment pour les ménages à revenus les plus modestes. Et moi, ce que je voudrais souligner dans des choses qui ont déjà été dites, c'est effectivement, cette question de l'information qui est fondamentale, parce qu'elle vaut pour les aides, elle vaut pour identifier les entreprises, elle vaut pour les banquiers, parce que effectivement, un banquier dans une agence bancaire qui n'a pas fait de prêt immobilier depuis 5 ans, il va être mauvais conseil pour l'emprunteur. Mais l'autre élément, peut-être encore plus fondamental s'agissant des aides publiques, c'est leur stabilité. C'est-à-dire que les aides à l'amélioration du parc de logement varient à un rythme à peu près tous les 6 mois. Ce qui les rend extrêmement, ce qui nuit encore plus à leur lisibilité.
Les annonces sont, elles, hebdomadaires en général.
Voilà, c'est la loi de finances et la loi de finances modificative. Hein. Donc, 2 fois par an, on change les règles du jeu. Quand on sait que dans une copropriété, mais même un ménage seul, le temps dont il a besoin pour prendre une décision, pour prendre des conseils,
mobiliser de l'argent, évidemment.
Le nombre de fois où on a des cas de figure où quelqu'un finit par se lancer, va voir le service de l'ANA en disant ça y est, je suis décidé sur la base du plan de financement dont vous me parliez. Ah ben non, désolé, ça marche plus comme ça aujourd'hui, vous y avez plus droit. Et c'est terrifiant.
Célia Gauthier.
C'est pour ça que dans l'immédiat, au-delà des volumes financiers, de l'investissement public dédié à cette question-là, il y a un enjeu majeur à booster la présence territoriale d'experts, par exemple des espaces info-énergie, qui pourraient conseiller les ménages en leur disant, voilà, vous avez un guichet unique, vous avez le droit... Alors déjà, on simplifie les aides, notamment les crédits d'impôt, etc., et on les passe en prime pour certains ménages, parce que c'est-à-dire une avance avant travaux plutôt qu'après travaux.
On s'oriente vers ça dans le projet énergie climat.
Mais aussi, vous avez voilà, une personne qui vous conseille, qui vous offre un bouquet d'aide et qui vous conseille aussi sur vos travaux à mener. Et ça, c'est absolument primordial. L'Agence nationale
de l'habitat... Mais ça, ça n'est pas le cas.
C'est pas encore le cas parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Et ça n'est, pour l'instant, on verra bien dans le projet de loi de finances, mais c'est pas le projet. Et l'Agence nationale de l'habitat a dit, nous, on veut bien faire plus de rénovation auprès des ménages modestes, mais en fait, on peut pas absorber autant de demandes. Donc, il va bien falloir que...
Il y a un problème d'ingénierie. Il y ait plus de personnel aussi.
Il y a un problème global d'ingénierie du système.
Il y a les règles du jeu. On parlait des copropriétés. La loi de 2014, la loi Allure, bon, qui est célèbre, comporte de nombreuses dispositions, que les ménages connaissent. Eh bien, pour les copropriétés, elle a mis en place un arsenal. Je trouve que le législateur n'a pas démérité. Une épargne obligatoire, ça s'appelle un fonds travaux. L'obligation d'un plan pluriannuel de travaux que doit faire le syndic. Un diagnostic global, j'en parlais, mais qui n'est pas rendu obligatoire. Je crois que ça va venir dans le projet de loi climat ou dans un autre. Et un abaissement de majorité aussi, pour qu'on puisse voter ces travaux, même s'il y a moins de gens convaincus. Eh bien, tout ça, les ménages, ils ont besoin de cette information. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils peuvent l'avoir par leur syndic, mais la plupart du temps, ils ne l'ont pas.
Le gros problème, ou l'un des gros problèmes à vous entendre depuis le début de l'émission, c'est ça, c'est l'information. Au-delà des aides, au-delà du calendrier, c'est d'abord l'information, Jean-Claude Rian.
Oui, c'est d'abord l'information et c'est aussi quand même les aides. Parce que quand on dit l'État peut contribuer pour les ménages modestes jusqu'à 80% du coût d'une opération, quand on sait le coût de ces opérations, pour un ménage vraiment modeste, quand il en reste 20%, c'est parfois pas, tout simplement pas tenable. Surtout quand c'est un ménage âgé qui va, par exemple, pas pouvoir s'endetter pour financer ses 20%.
Vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude Rian, que les aides étaient insuffisantes pour les ménages les plus modestes. Ça pose la question aussi de savoir si ces aides sont bien orientées, finalement, compte tenu des revenus des uns et des autres. Henri Buzy-Cazot.
J'évoquais tout à l'heure ce vers quoi on s'achemine pour le CITE. Ce serait un rapport aux revenus des ménages bénéficiaires. Bon, ben ça, je crois que cette technique pour aider les ménages, il faudrait qu'elle soit généralement appliquée, pas que pour le CITE. Ce serait de l'équité. Et puis, par ailleurs, il n'est pas choquant de les flécher très lourdement vers les ménages qui en ont le plus besoin. Globalement, on peut couper en deux quand même la France. Il y a ceux qui sont des ménages très fragiles, qui ont la double peine, parce qu'ils habitent des maisons qui sont des passoires énergétiques, qui se dévalorisent, ils ont des grosses factures, ils peuvent pas les acquitter, ils se chauffent pas. Ça, ceux-là ont besoin d'une aide massive. Les autres ont besoin de moins d'aide, de plus de conviction, un peu de coercition et de la connaissance de l'existant. La rénovation embarquée, par exemple, on n'en a pas parlé. Ça, c'est une disposition...
Qu'est-ce que c'est la rénovation embarquée?
C'est très simple. Dans une copropriété... Et depuis maintenant 4 ans, quand vous faites des travaux lourds, parce que vous allez toucher à la couverture, à la toiture, vous allez toucher au bâti, vous avez l'obligation d'embarquer, d'associer des travaux liés à la performance énergétique. C'est une obligation. Bon, eh bien ça, c'est un mécanisme intelligent. Les ménages, là encore, sont mal informés. Et ils sont mal informés, je crois que là aussi c'est de l'information, sur le risque de dévalorisation s'ils ne font pas les choses. Aujourd'hui, et pas que dans les territoires ruraux et un peu excentrés des villes, un immeuble de 20 logements qui ne fait pas ces travaux-là, l'ensemble des logements se dévalorise dans des proportions de 5 à 10% immédiatement pour des reventes qui se feraient maintenant. Il faut le réaliser.
Jean-Claude Rian.
Oui, c'est très important ce que vient de dire Henri, parce que on fait souvent un raisonnement économique en disant vous allez récupérer sur votre investissement parce que vos charges vont baisser. Bon, ça, on constate que c'est pas tout à fait vrai.
Le retour, il est sur 12
ans. Le retour, il est long, il est très long. Il y a un gain en confort, ça oui, il est très bien observé. Il y a un gain en confort, l'hiver, l'été, etc. Mais il n'y a pas tellement de gains économiques sur les charges. En revanche, la question de la dévalorisation du patrimoine pour les propriétaires, c'est une vraie question à terme. Et encore une fois, je pense que c'est un facteur d'inégalité sociale majeure à venir.
Vous parliez aussi, Henri Buzicazo, du syndic, enfin du travail des professionnels de l'immobilier dans ce, dans ce dossier. Vous évoquiez tout à l'heure que lors des derniers dispositifs, notamment la loi de 2015 ou même celle de Jean-Louis Borloo, finalement la bonne volonté de ces acteurs s'était rapidement évaporée.
Je crois qu'ils...
Aujourd'hui, on en est où?
Je pense qu'ils n'ont pas assez mesuré les enjeux. Et encore une fois, les organisations professionnelles ont fait du travail. Je ne sais pas si elles en ont fait assez. J'ai pris ma part, j'ai dirigé une de ces organisations professionnelles. Bon, je sais ce que j'ai fait, j'aurais pu faire plus.
Eux aussi, il faut les former, en fait, c'est ça?
Mais il faut les former et les sensibiliser, surtout. Les sensibiliser. Il y a une culture des acteurs que vous avez évoqués, des syndics, des gestionnaires, des agents immobiliers, qui est très insuffisante. Je préside une école, je peux vous dire que dans nos programmes, on n'a pas fait ce qu'il fallait à temps. Aujourd'hui, on est quelques écoles spécialisées, on met beaucoup de culture sur la performance énergétique avec un bagage technique. On ne le faisait pas, vous voyez, donc je balais devant ma porte. Il y a aussi les questions de comportement sur lesquelles il faut que les professionnels attirent l'attention. Ça se fait beaucoup dans le parc social. Aujourd'hui, les habitants ne savent pas comment vivre aussi pour avoir une meilleure performance énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont chauffer excessivement, qu'ils vont ouvrir leurs fenêtres, que, par exemple, l'individualisation des consommations, je pense que c'est un vrai progrès. Alors, il y a eu des débats, mais responsabiliser en tout cas les ménages sur leur consommation, leur façon de vivre, il faut le faire. Il y a une éducation des ménages. Et les plus jeunes qui sont attentifs, ils veulent sauver la planète. J'ai des enfants adolescents, ils ne le font pas.
C'est aussi de la responsabilité personnelle.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Mais souvent,
Célia Gauthier.
Les citoyens, si vous voulez, et c'est ce qu'ils nous ont renvoyé d'ailleurs en signant massivement l'affaire du siècle, c'est-à-dire ils nous disent on veut bien bouger, nous, mais si on sait que derrière l'État n'est pas exemplaire, les entreprises non plus, pourquoi est-ce qu'on bougerait? Et en fait, il faut que le bateau, l'ensemble des roues avancent en même temps et qu'on arrête de se renvoyer éternellement les responsabilités des uns et des autres. Donc l'État doit prendre sa part, les entreprises aussi, et les citoyens, enfin. Ce que je trouve assez fou finalement, c'est que là, on est en train d'avoir une discussion sur un sujet sur lequel on est globalement d'accord, qui semble absolument essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Et en fait, la principale loi sur le climat et l'énergie de ce quinquennat vient de passer à l'Assemblée nationale et écarte, en fait, manque l'opportunité de ce sujet de la rénovation et finalement, ça risque d'être repoussé à beaucoup plus tard. C'est quand même vraiment dommage parce que, en fait, c'est un sujet dont on sent qu'il est mature à la fois au sein de la société civile, des professionnels, même des parlementaires qui se sont bougés à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement leur a dit non, attention.
Il y a eu des divisions au sein du gouvernement, au sein des parlementaires.
Et le gouvernement
de la
a même menacé sa majorité d'aller trop loin, donc on est quand même...
Le Sénat sera peut-être plus libre.
C'est une occasion manquée aussi pour vous, Henri Buzicazo?
Moi, j'attends de voir ce que sera la loi, et je viens d'évoquer le Sénat, il y a une deuxième lecture. Alors malheureusement, peut-être, on a déclaré l'urgence, comme on dit sur ce texte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux lectures dans chaque chambre, mais une seule lecture. Bon, c'est ainsi. Le Sénat, qui va se saisir la semaine prochaine en effet du texte, est une opportunité, et je pense que les sénateurs ont un lien au gouvernement qui est un peu différent. Ils ont plus d'indépendance. Moi, je pense que ce texte, en tout cas, c'est le train dans lequel il faut monter. Il ne va pas y avoir un véhicule législatif comme ça tous les matins.
Jean-Claude Rian, sur cette question.
Oui, avec la question supplémentaire, c'est la façon dont la loi de finances ensuite traitera la question. Parce que c'est une histoire qu'on connaît bien quand même, y compris sur le secteur du logement, entre une loi Élan qui disait construire plus, mieux, moins cher, et une loi de finances derrière qui supprimait abondamment des financements du logement social et réduisait sa capacité d'investissement. Donc, je pense que les lois, c'est toujours un ensemble avec la loi de finances.
Il nous reste encore une minute. Juste, on n'a pas parlé ou peu parlé des normes qui ne sont pas dans ce projet de loi énergie-climat, qui était dans le projet, dans la loi maintenant Élan. Est-ce qu'il faut encore les renforcer, ces lois?
Bon, alors, je vous donne mon avis. Pour le neuf, il y a un débat. On est aujourd'hui sous la norme réglementation thermique RT 2012. On va vers la RT 2020. Je dis qu'il faut faire attention là aussi. On a une production de logements de grande qualité, y compris au plan énergétique. Après, c'est une question de cherté et d'enchérissement des coûts. Moi, je suis pas candidat à ce qu'on empêche 5 ou 10% de la population de devenir propriétaire. Et donc, il me semble qu'il faut pas être excessif en matière de normes. En revanche, il faut écréter quantité de normes qui sont... Il y a 6000 normes qui pèsent sur un promoteur aujourd'hui, 6000. Donc certaines ne sont pas utiles, il vaut mieux se centrer sur celles qui sont énergétiques.
Célia Gauthier, rapidement.
Oui, pour nous, la priorité, ça reste le parc existant, donc les logements...
Et la coercition, on l'a compris.
Et le fait que ces logements soient effectivement rénovés efficacement d'ici 2025.
Merci à tous les trois, dossier riche. Merci de tous les éléments que vous nous avez apportés ce soir. Merci Célia Gauthier, en charge du dossier climat-énergie à la Fondation Nicolas Hulot. Merci Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, directeur général également de l'ISC Paris. Et merci à vous Jean-Claude Drian, professeur à l'École d'Urbanisme de Paris. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Élodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain, Valentin Berg. Réalisation ce soir Thomas Jost, mise en onde Emmanuel Mort. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, le site franceculture.fr, l'application Radio France. Bonne soirée, restez avec nous dans une minute, matière à penser.